Pauline Pucciano, Paradict, 27 janvier 2072. Léviathan, notre interview de Martha Henkel. Événement, le mariage gouvernemental sous haute sécurité. Le couple Oxford-Costa, l'alliance de la glace et du feu. Le matin du 27 janvier, Elsée s'éveilla en sursaut, les cheveux collés par la sueur aigre des cauchemars. Le paysage qu'elle avait vu en rêve la hantait. Elle croyait le deviner derrière les fenêtres, à l'horizon de la City. Il s'agissait d'un monde éteint, où l'activité humaine s'était définitivement arrêtée. Il n'y avait même pas de cadavres, même pas de forme humaine. L'humain, corps et civilisation, appartenaient tout simplement au passé, était devenu insubstantiel et fantomatique. Il n'était là que sous la forme d'un vide qui serrait le cœur d'Elsée. Et puis, après un temps interminable d'errance dans cette désolation, elle voyait une silhouette de dos et s'emplissait de joie. C'était Terence, elle en était sûre, et elle se disait mentalement « c'est le dernier homme ». Mais lorsqu'elle s'approchait, la figure de Terence se changeait en celle de son père. Francis avait les yeux hagards, et il murmurait « pourquoi m'as-tu abandonnée ?» C'était alors qu'elle s'était éveillée, mordue par un remords tenace. Elle n'avait jamais pu retrouver le sommeil et se sentait comme après une nuit presque blanche, la tête un peu flottante, une pesanteur derrière les yeux, une graine de douleur semée dans son crâne. Elle s'était prêtée machinalement à tous les préparatifs nécessaires, habillage, maquillage, déplacement, séance de pause, et maintenant, dans son tailleur blanc crème, choisi par Karl Courseul, elle avait le plus grand mal à se concentrer sur le discours d'Abel. Elsée, pour moi, c'est d'abord la sœur aînée. Sur les photos que je regardais, c'était une petite fille, toujours tirée à quatre épingles, elle n'a pas beaucoup changé, qui posait ses grands yeux sages sur toute la maisonnée. Une petite fille qui, paraît-il, prodiguait à tout un chacun des conseils et des recommandations. Puis, une adolescente sensible, qui jouait avec beaucoup de musicalité les préludes de Bach et qui s'est transformée en une jeune femme brillante et passionnée par son métier et son engagement dans la société. Abel était décidément une énigme, songeait Cyril Borgeist devant son écran d'ordinateur. Ses mensonges n'ôtaient rien à son immense pouvoir de séduction et l'amplifiaient même peut-être. Et Cyril se sentait d'autant plus menacé qu'il ne pouvait détacher ses yeux de ce visage d'une beauté si évidente et si franche. Évident et franc, Abel cependant ne l'était pas. Et ce discours qu'il était en train de servir avec de tels accents de vérité faisait plus honneur à ses talents de comédien qu'à sa moralité. Cyril cependant ne pouvait s'empêcher de l'admirer, d'éprouver une petite fierté à l'idée qu'il avait étreint cet être solaire. Il ne pouvait s'empêcher d'éprouver le désir de recommencer. Et cela l'inclinait à lui pardonner ses mensonges. N'avait-il pas été convaincant l'autre soir? Alors que Cyril souhaitait mettre fin à leur relation, Abel l'avait confronté, il s'était imposé, il l'avait subjugué. Il n'était peut-être pas un menteur, après tout. Il était peut-être seulement quelqu'un dans une situation très compliquée. Il avait livré des informations nombreuses, précises, et qui s'étaient révélées exactes, sur le déroulement de la cérémonie, sans demander ce que Cyril ou Oswald comptaient en faire. Et c'était cette générosité dans le risque, ce don de soi, cette façon insolente de faire tapis et de gagner, qui l'avait raccroché in extremis. On ne pouvait résister au charme d'un joueur de poker en train de gagner une partie. Abel avait misé le tout pour le tout, pour le reconquérir, et il avait réussi. Elsée, pour moi, c'est la voix de la raison qui rappelait à l'ordre ses petits frères, et surtout moi quand j'avais décidé d'empêcher le monde de tourner en rond. Contrairement aux 9/10 de l'assemblée, Alvar écoutait attentivement le discours. Pour une raison précise, il guettait le mot qu'il avait glissé à l'oreille de son frère 2 minutes avant son intervention. Il s'agissait du mot « exaspérante » qu'Alvar voyait comme une petite pique invisible et désabusée, un acte de rébellion secret dans lequel il puisait un peu de force. Il était tellement en colère contre sa sœur qu'il avait à peine pu lui dire bonjour. La présence de Curtis Anglion le plongeait dans un sentiment d'irréalité et de révolte difficilement conciliable avec les bonnes manières, et il sentait qu'une crise, semblable à un abcès, était en train de couver en lui, de mûrir et qu'elle éclaterait nécessairement avant la fin de cette odieuse journée. Pour mieux vous la décrire, je voudrais raconter une simple anecdote à son sujet. Nous sommes en 2058, Elsée a environ 18 ans, et moi, je suis un petit bonhomme de 3 ans, espiègle et malin à ce qu'on dit. Je m'en souviens d'ailleurs comme si c'était hier. Je la trouvais si jolie ce jour-là que j'aurais voulu la voir pour moi tout seul. Mais elle était en train de travailler dur à la maison, et je la trouvais exaspérante de consacrer tant de temps à ses examens, ce que je ne comprenais absolument pas. Heureusement, on change un peu entre 3 et 20 ans, et je la comprends un peu mieux maintenant. Lorsqu'Abel lâcha le mot soufflé par son frère, Alvar eut un petit rire moqueur assez bruyant qui fit tourner quelques têtes, et Francis maugréa quelques paroles incompréhensibles à son encontre. Sonia les regarda tour à tour. Abel, dans son rôle de jeune premier éternellement parfait. Alvar, dans son rôle de desperado qui ne croit plus en sa cause. Francis, dans son rôle de père la morale. Elsée, dans son rôle de jeune épousée accomplissant les rites d'un sacre. Sonia songea que tous les costats jouaient faux, aujourd'hui. La mariée était nerveuse, le patriarche perdait la boule, le jeune premier révélait sa duplicité, et Alvar n'était pas si désespéré qu'il voulait bien le dire, grâce à elle. L'idée subite lui vint qu'il pourrait fort bien s'éclipser, là, maintenant, sans rien dire à personne, et mettre tout le monde devant le fait accompli. Il planterait là ce mariage sans amour, pour aller consommer leurs propres noces, solitaires et charnelles, au fond de son appartement. Bref, je ne cessais d'entrer dans sa chambre, de la tirer par la manche ou de faire tout le tapage possible avec mon tambour. À un moment agacée, elle m'a attrapée et a voulu me confier à mon frère aîné ici présent. « Oui, Alvar, je suis sûre que tu t'en souviens. » Mais elle s'est rendue compte qu'il se trouvait au chevet de ma mère malade, avec notre père. Depuis quelques minutes, Alvar n'écoutait plus. Son regard plein de haine était posé sur Curtis Anglione, à quelques rangs à sa droite. La cinquantaine avantageuse, pas l'ombre d'un scrupule sur son visage lisse. Et lorsqu'il se connectait au paradict, avec un ange unique, sans pareil, qui lui valait l'admiration générale, il ne pensait probablement pas davantage au mal qu'il avait fait. Cet homme n'avait même pas peur d'être démasqué. Peut-être n'avait-il même pas conscience d'être coupable. C'était un point intéressant de la psychologie criminelle, ce sentiment d'impunité. Non pas parce qu'on réussirait en quelque sorte à contourner la loi, mais parce que la loi ne vous concerne pas. Curtis Anglione n'avait pas tué quelqu'un. Il avait acquis un ange qu'il désirait ardemment. Les détails de cette acquisition n'avaient aucune importance pour lui. Qu'un délicat qu'il n'avait jamais vu fût mort n'était qu'un dommage collatéral, vite occulté par le flot des événements. Et Elsée le laissait faire. Elle le laissait vivre dans cette injustice immanente. Elle le laissait profiter des fruits de son crime, sans même en avoir conscience. « Je suis fière, je suis impressionnée, et surtout, je suis confiant. Elsée ne m'a jamais fait défaut, et je lui souhaite avec ce grand humaniste, ce grand cœur qu'est Terence Oxford, de trouver dans son intimité tout le bonheur possible, tout le bonheur qu'elle m'a donné à moi et qu'elle nous donnera à nous tous. » Alvar aurait giflé son frère pour ce final sirupeux. Elsée était-elle de la même étoffe que Curtis Anglione? N'avait-elle même pas conscience du mal qu'elle faisait? La crise en lui était en train de grossir et de prendre forme, non plus comme un abcès, mais comme une tempête. C'était de cela qu'il avait envie, à cet instant précis, d'une tempête qui renverserait ses chaises, qui briserait tout ce cristal, qui soulèverait les voiles. Alvar ne désirait rien tant que de briser cette surface d'apparence et de ramener les monstres à découvert et à nu. L'humanité souleva sa robe et me montra comme à un adepte digne d'elle. Sa monstrueuse nudité. Tandis que les gens applaudissaient, Sonia lui glissa à l'oreille une invitation à partir loin de cette cérémonie sans prévenir personne. Il lui sourit et lui dit qu'il avait d'abord quelque chose à faire, puis il profita du mouvement général et bouscula assez violemment Curtis Anglione, qui eut une expression outragée, vite dissipée lorsqu'il reconnut le frère d'Elsée. Alvar Costa, c'est bien cela ? En effet, monsieur Curtis Anglione. « Je vois que vous mettez à rentrer dans les gens autant d'énergie que votre sœur à s'en faire obéir. »«
Je voulais vous demander comment se portait votre ange, monsieur Anglione, » le coupa Alvar. « Votre ange, Marek Kansas, qui est soit dit en passant d'une beauté stupéfiante. Comment vous l'êtes-vous procuré ? Vous architectez à vos moments perdus ? Curtis Anglion, déstabilisé, chercha du regard des renforts potentiels, mais en dehors d'Abel, qui de loin observait leur échange avec une certaine curiosité, il n'y avait personne. « Je ne comprends pas bien, je l'avoue. Laissez-moi vous expliquer. Je suis inspecteur à la Globale, le vilain petit canard de la famille, et accessoirement, je fais quelques enquêtes. Et figurez-vous que ma dernière enquête m'a menée sur la route. Vraiment, c'est fascinant. En effet, c'est un espace où on paie ses dettes. » Anglion cherchait à s'échapper, mais Alvar le retint par le bras, avec une force qui l'étonna lui-même. « Saviez-vous que Marek Kanzas s'appelait en réalité Marek Eskanza, et qu'il était délicat de naissance, un homme d'une grande intelligence, d'une extrême sensibilité, et si j'ose le dire, un véritable génie? Il a été tué par derrière, d'un mauvais coup sur la tête. La massue a tout fait exploser, le crâne, l'imagination, la matière grise, le cuir chevelu, le talent. Je suis encore en train de ramasser ce gâchis. » Curtis Anglion resta muet, le visage fermé, et fit un geste sec pour se dégager. « Je vous souhaite une belle journée, » dit Alvar, « et n'abusez pas du champagne, ça peut donner quelques aigreurs. » Avec un sentiment de jubilation intense, Alvar se détourna. Elzé ne s'était aperçu de rien, accaparé par une marée humaine, et Alvar décida de partir sur le champ, après avoir simplement informé Abel, qui recevait quelques poignées de mains et de félicitations pour son touchant discours. « Nous partons, » dit Alvar en arrivant à sa hauteur. Abel fit quelques sourires polis et quelques rondes jambes avant de pouvoir lui répondre. « Comment ça? Tu ne viens pas au repas de noces ?»« Eh bien non, c'est trop mal famé. Je suis arrivée à l'extrémité de ce que je peux supporter et je pense qu'il vaut mieux pour tout le monde que je parte. Tu diras au revoir à Elzé. » Abel ne put s'empêcher de lui demander. « Qu'est-ce que tu as dit à Curtis Anglion ?» Il avait l'air embarrassé. « Embarrassé? Tiens donc, tu demanderas à Elzé. Je pense qu'elle a sa petite idée sur tout ça. » Abel n'insista pas. « Tu ne veux pas ramener papa ? Il est persuadé que maman est partie aux toilettes et qu'il faut l'attendre avant de quitter la salle. » Alvar tourna la tête vers Sonia, qui tenait le bras de Francis. Il l'interrogea du regard, car il ne voulait pas lui imposer son père, et devant son air approbateur, il se dirigea vers le vieil homme. Certes, il avait envie de le ramener comme de se pendre, mais il ne savait pas pourquoi l'affaiblissement de cet homme dur, l'effondrement de cet esprit critique qu'il avait si souvent jugé, le remplissait de chagrin. Cet homme, qui ne s'était jamais laissé aimer, il parvenait aujourd'hui à le prendre en pitié. Alvar se disait que peut-être, à force de patience, Francis finirait par reconnaître qu'il s'était trompé à son égard, et cette reconnaissance tardive, presque posthume, émanant d'un homme diminué, représentait encore, malgré tout, une chose qu'il fallait qu'on s'y raccroche. « Papa, tu viens avec moi ? Nous allons les laisser et rentrer à la maison tranquillement. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin ? Rentrer ! Tu n'es pas un peu fou ? C'est le mariage de ta sœur et tu me proposes de rentrer ?» La voix du vieillard commençait à monter dans les tons, et Karl Courcelle fit une apparition discrète à quelques mètres d'eux. « Mon pauvre Alvar, continua Francis, tu me déçois beaucoup. Je ne sais pas ce que j'attends encore de toi, d'ailleurs. Tu m'as toujours déçu. Tu es un fils décevant. » Alvar encaissa le coup, et Abel craignit vraiment un esclandre pendant quelques secondes. Puis il éclata d'un rire amer, terrible à entendre. Il était décidément stupide de prêter au vieillard la moindre innocence. Leurs défauts ne faisaient que s'accentuer, et la faiblesse qui les envahissait n'échangeait rien. « Ne t'inquiète pas, papa. C'est la dernière fois que je te déçois. Tu peux m'oublier complètement. » Il jeta un regard à Abel, qui avait rougi, de honte ou de colère, et Alvar savait que les paroles de Francis l'avaient blessé presque autant que lui. Presque, mais pas tout à fait. Car souffrir pour un frère n'est pas souffrir dans sa chair. La blessure répétée, quotidienne, que Francis avait infligée à Alvar dès son plus jeune âge, et qu'il avait ensuite toujours empêché de se refermer, par ses paroles acides, ses comparaisons infectes, ses remontrances sans objet, cette blessure ancienne et toujours saignante venait d'atteindre le point où Alvar ne pouvait plus la supporter. Il sentit comme une évidence qu'il n'avait pas besoin d'attendre quoi que ce fût pour se libérer de cette emprise. Francis pouvait vivre ou mourir, perdre la tête ou la garder, inspirer de la pitié et même témoigner un peu de gentillesse. Plus rien ne changerait quoi que ce fût à ce que leur relation avait été. L'échec était consommé. Francis, échauffé, s'était éloigné de quelques pas, et Abel le regarda s'éloigner sans chercher à le retenir. Après tout, c'était l'affaire d'Elzé et de Courcelle, plus que la sienne. Il protégea la retraite d'Alvar et de Sonia, en les raccompagnant dehors. Avant de disparaître dans la foule, Alvar regarda Abel d'un air presque inspiré. « Ne garde pas trop longtemps le masque du vice, ou il te collera à la peau, lâcha-t-il. » Abel repensa à cette phrase plusieurs fois au cours de la journée. Le masque du vice, c'était une formule étrangement pertinente. Abel était sûr qu'Alvar ignorait tout de ses activités clandestines, mais il avait perçu la vérité en lui, au-delà des apparences. L'alliance avec Elzé était une compromission. C'était cela qu'Alvar avait perçu. Et puisqu'il s'intéressait si peu à la politique, il avait dû être témoin de quelque chose qui avait heurté son sens de la justice. Abel se demanda, dans une intuition, si cela avait quelque chose à voir avec Curtis Anglion, puis il cessa d'y penser, absorbé par le tourbillon de cette journée sans fin. Tandis qu'Elzé, avec une grâce mécanique, une énergie indéfectible, accomplissait une à une les innombrables tâches qui s'imposaient à elle, Terence la suivait avec un air sombre et réservait ses sourires pour les caméras. Le reste du temps, il semblait méditer un problème complexe qui requérait toute son attention. Abel se trouva incessamment dans ces parages, sans pour autant jamais lier de véritables conversations. Si pour Elzé ce mariage représentait aussi une cérémonie de couronnement, pour Terence il ressemblait plutôt à un enterrement de première classe. Tous les sacrements en un, dans ce grand rituel médiatique qui avait Karl Courseul pour grand prêtre. Parmi les problèmes les plus aigus qui se posèrent à Courseul durant la journée, se trouvait le départ incontrôlable d'Alvar et les saillies malséantes de Francis. Le vieil homme était persuadé qu'il devrait accompagner sa fille à l'hôtel, et on eut beau lui dire plusieurs fois qu'il n'y aurait pas de cérémonie religieuse, cette idée lui revint, comme une obsession. Francis voulait aussi sans cesse parler à sa fille, et se lançait dans des compliments larmoyants tout à fait déplacés. Courseul fut obligé à plusieurs reprises de s'occuper lui-même de le circonvenir, et ne fut tout à fait soulagé qu'après le repas de noces, lorsqu'il fut raccompagné chez lui, après qu'Elzé l'eut embrassé distraitement, d'un air fatigué. « C'est le plus beau jour de ma vie, » lui dit Francis avant de partir. « Te voir comme ça, si belle et si fêtée. J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses, ma fille. C'est un jour merveilleux. » Aux alentours de 22 heures, l'exhibit se montrait presque identique à ce qu'il était les autres soirs, aussi bruyant et coloré. Il y avait peut-être juste un peu moins de monde que d'habitude, car les portes s'étaient fermées depuis une demi-heure. Des vigiles, plus ou moins en civil, faisaient le tour des salles, et un accès sécurisé avait été aménagé pour qu'Elzé et Terence vinssent faire leur discours d'inauguration de la soirée nuptiale. Des danseurs professionnels se mélangeaient aux convives, qui avaient été sélectionnés avec le plus grand soin. Un casting très sérieux, digne d'une production de cinéma, avait été organisé dans les locaux de la WA, et Oswald, avec son look de dandy décadent, avait été retenu sans la moindre difficulté. Sur une estrade qui faisait face à celle qui avait été préparée pour le couple présidentiel, Oswald était dans un état de conscience très particulier. La proximité de la mort n'était pas une chose nouvelle pour lui. Il pensait à sa mort tous les jours, depuis de nombreuses années. Cela n'avait rien de douloureux. C'était un éclairage particulier donné à la vie, un rayon pâle qui laissait dans l'ombre l'inessentiel pour mettre en valeur ce qui comptait vraiment. Cet éclairage faisait partie de son mode de pensée. Il modelait les paysages qu'il voyait. Ce soir, le rayon était juste un peu plus fort, un peu plus éblouissant que d'habitude, parce que la mort était plus proche. Frôlée, mystérieuse, attirante, elle s'incarnait dans tous les corps qui se déchaînaient à côté de lui. Quelque chose comme un grand calme avait englouti des pans entiers de sa vie, son enfance, sa jeunesse, avant sa rencontre avec Cyril, son avenir aussi, s'était détaché de lui comme de grands blocs de glace s'échappant de la banquise. Il ne restait que le présent, brillamment illuminé, d'une troublante intensité qui se dilatait jusqu'à emplir l'horizon de sa pensée. Il n'avait pas vraiment peur, mais il avait la gorge serrée, le ventre vertigineux, les mains humides, comme avant une rencontre amoureuse ou une entrée en scène. Son destin allait se jouer là, en musique, parmi cette foule. Il songea que cela l'aiderait sans doute et qu'il aurait eu plus de mal à passer à l'acte tout seul. Le rythme le porterait, la danse le porterait. Il lui suffirait de détacher le shuriken et de le lancer, comme il s'y était entraîné des centaines de fois. Après, il n'aurait plus rien à faire. L'étoile mortelle avait l'éclat de l'or et le tranchant de l'acier. Elle était pour l'heure fixée à une chaîne et dormait dans son jabot de dentelle comme une bagatelle luxueuse. Mais tout à l'heure, il lui suffirait d'un instant si bref pour la lancer qu'aucun des vigiles présents ne pourrait anticiper son geste. Elsé Costa mourrait, et il ne lui survivrait probablement que quelques minutes. Il serait abattu d'un coup de feu, et il se délectait du fantasme de sa dentelle tachée de rouge. Carpe mortem. C'était une sortie magnifique, par la grande porte des livres d'histoire, son régicide sublime retentirait dans l'éternité. En attendant, le temps s'était suspendu. Oswald ne pensait pas qu'il parlerait à nouveau à quelqu'un. Cependant, rien dans son corps ne lui permettait de sentir la mort prochaine. Il n'était pas plus fatigué qu'à l'ordinaire, son corps malade était le même qu'hier, et il avait du mal à éprouver qu'il n'y aurait pas de lendemain. Il le savait, bien sûr, les hommes savent qu'ils sont mortels, et lorsque l'échéance se rapproche, il ne s'agit jusqu'au dernier moment que d'une idée abstraite. Oswald s'objectait à lui-même que la mort avait en quelque sorte pris possession de son corps depuis si longtemps qu'il en avait perdu le souvenir, qu'elle était tapie dans son corps, dans sa faiblesse. Sa peau presque transparente n'était-elle pas celle d'un cadavre ambulant, allergique à la lumière, à la vie, vieux avant que d'être jeune, flétri avant que d'être mûr? Le changement d'état serait peut-être moins brutal pour lui, qui avait marché dans ce monde avec un pied dans l'autre, bancal et suppliant, comme un mendiant fantôme. Rien ne venait interrompre le cours de sa transe et de sa rêverie. Il dansait au rythme des autres, captant parfois un regard de ces visages inconnus et interchangeables. Il guettait l'estrade d'en face. La mort aurait pour lui les traits de sa victime, le visage arrogant d'une poupée. C'était amusant, cette idée. Il allait tuer la mort, en quelque sorte. Elsé Costa n'était-elle pas surnommée l'ange exterminateur ? Toutes ces idées baroques roulaient, fantasques, dans son esprit, tandis que son corps accomplissait, comme un automate, des pas de danse empreints d'une raideur étrange. Lui aussi, à cet instant, ressemblait à une poupée, semblable à ces créatures de porcelaine qui luisent dans le noir et se brisent au moindre choc. Puis, soudain, le temps suspendu reprit son cours, avec la brutalité d'un torrent, lorsque l'estrade présidentielle se remplit d'un coup. Il ne vit pas entrer Elsé. Quand il leva les yeux devant lui, elle était déjà là, mais sa beauté de jeune mariée au sommet de sa gloire était presque éclipsée par celle d'Abel, qui se tenait juste là, à 1 mètre à peine. La vue du jeune homme plongea Oswald dans une sorte de panique, où se mêlait la surprise, la peur d'être démasqué, et la colère contre ce compagnon qui les avait trahis, et qui lui aussi aurait bien mérité de mourir. Il détacha son shuriken d'une main experte, sans réfléchir, et hésita une fraction de seconde. Ce fut cette fraction de seconde pendant laquelle Oswald tint son étoile d'or au-dessus de sa tête. Ce fut plus précisément le reflet de l'or jaillissant des dentelles qui attira le regard d'Abel. Il reconnut, dans une seule intuition globale et fulgurante, Oswald, la raison de sa présence sur l'estrade qui leur faisait face et le sens de sa main levée au-dessus de sa tête. L'étoile mortelle avait déjà amorcé sa course lorsque, par instinct, il tira sur le bras d'Elsé. La lame, lancée pour atteindre sa gorge, ne fit que raser sa joue et laissa sur son visage une balafre de sang. Oswald, cependant, n'eut pas le temps de comprendre la raison de son échec. Comme il l'avait prévu, la sécurité fut prompte à l'éliminer, sans sommation et avec un silencieux. Oswald s'écroula sur le sol, comme s'il avait fait un malaise, et les danseurs qui l'entouraient ne poussèrent pas un cri. Abel accourut et accompagna la sécurité jusque dans les coulisses où le corps fut examiné pour identification. Il eut le temps de voir son ami un bref instant, avant que le corps ne soit recouvert d'un spray cryogénique et emballé. Abel était choqué par le rouge ardent de son sang répandu. Cette créature lunaire pouvait-elle avoir été aussi incarnée? Des voix fusaient de part et d'autre. « Appelez un inspecteur de la globale. Sécurisez la secrétaire générale. Événement annulé, je répète, événement annulé. » Mais de la bouche neigeuse du délicat ne sortait plus à présent qu'un filet de sang qui cessa bientôt de couler et se figea, tranchant avec une beauté barbare sur le noir, le blanc et l'or qui garnissaient son corps frêle.